On va aborder aujourd'hui, ce matin, les questions d'organisation des bibliographies, donc des collectes de documents qu'on a pu réunir sur un thème. Alors, pour commencer la matinée, un petit topo avec quelques points un peu théoriques entre guillemets, et puis on va poursuivre en salle de formation avec un nouveau TP. Donc ce que je propose de voir assez rapidement, c'est quelques rappels, notions de base sur les documents. Bon, on va passer très vite. Hein. Un petit point d'arrêt quand même sur les questions juridiques, parce que ça fait jamais de mal. Et puis, les questions de formalisme dans le référencement des références bibliographiques. Et après, on passera plus à la pratique avec comment organiser sa bibliographie avec les outils dont on peut disposer aujourd'hui. Avec aussi les possibilités d'import-export qui évitent de saisir maintenant intégralement toutes les notices. Mais ça nous amènera aussi à voir les problèmes de format et de différence de format, de style, de présentation des bibliographies qui est un problème pas vraiment résolu aujourd'hui. Enfin, disons que coexistent de très multiples formats. Voilà. Bon, un petit rappel, le support d'information, hein, c'est la nature matérielle du document. Donc un même document peut avoir plusieurs supports dans des occurrences différentes. Bon, la principale distinction, c'est entre le support papier et le support numérique. Mais il faut être conscient que le document, c'est une entité qui n'est... Oh là là, voilà le notre décor de Noël qui est en train de s'effondrer, j'espère que... Alors, un document, bon, enfin, je pense que parmi vous, il y a des gens qui connaissent ça absolument par cœur. Je ne vais pas trop m'étendre dessus, mais c'est bon. Le document, c'est l'ensemble formé par le support de l'information et l'information elle-même. Donc, le support papier, plastique, numérique, et le contenu informationnel qu'on distingue. Le texte, l'image, la donnée. Actuellement, avec le web, c'est sûr que la notion de document tend à se complexifier. Parfois, on ne sait plus très bien ce que c'est qu'un document quand on a un écran internet avec des contenus variables. Quel est le document ? Est-ce que c'est la page internet avec des variations qui peuvent venir de l'utilisateur lui-même, hein, de vos préférences, etc. Donc, bon. Mais bon, là, c'est un petit peu de la théorie. Un petit point quand même sur les aspects de législation, parce que quand on utilise des documents d'autrui, il faut quand même être un petit peu informé des droits et des devoirs. Alors donc, l'utilisation des documents rentre dans le cadre du code de la propriété intellectuelle, avec pour principe que on n'a pas le droit d'utiliser l'œuvre d'autrui sans autorisation préalable de cet auteur ou de ses ayants droit, avec une durée de validité de ce principe qui est quand même très longue, hein, de 70 ans après le décès de l'auteur, hein, il faut attendre 70 ans pour que, après le décès de l'auteur, pour que l'œuvre tombe dans le domaine public, comme on dit. Et quand il s'agit d'un article de périodique, c'est 70 ans après la date de publication. Et le symbole copyright vient rappeler que les documents sont soumis à ce droit. Alors bien sûr, ce principe s'applique pour tout ce qui est citation longue. Alors bon, avec la subjectivité de ce qui est long et ce qui est court, mais bon, si vous citez deux pages d'un livre, d'un article, vous ne pouvez pas le faire sans l'autorisation de l'auteur ou de ses ayants droit. Alors, quand ça peut arriver que vous avez besoin de citer un passage un petit peu long d'un auteur, vous êtes censé retrouver cet auteur par l'intermédiaire de l'éditeur pour faire une demande d'autorisation de reproduction. Et cette autorisation peut vous être accordée ou refusée, et elle peut être accordée à titre gracieux ou à titre payant. Et en général, le montant des droits qui vous sera demandé va être fonction de l'usage que vous allez faire. C'est-à-dire, si c'est pour mettre dans un livre dont le tirage prévu est de 20 000 exemplaires, ou bien dans une petite publication, les tarifs seront différents en général, les éditeurs tiennent compte du tirage pour déterminer les droits. Quand vous ne retrouvez pas l'auteur ou ses ayants droit, que l'éditeur a disparu, etc., vous pouvez cependant continuer citer une partie, mais il faut quand même que vous prouviez, le cas échéant, que vous avez bien fait les recherches, et vous allez inscrire droit réservé, ce qui signifie, virtuellement, j'ai mis un petit peu d'argent de côté au cas où un ayant droit se manifesterait pour me dire, attention, vous n'avez pas demandé d'autorisation, moi je vous demande de payer des droits pour la reproduction de ce passage. Bon, ça c'est quand même des choses à savoir, ça se produit pas tous les jours, mais il faut pas l'oublier. En revanche, et fort heureusement, pour des citations dites courtes, quelques lignes, il y a un droit de citation courte qui est reconnu internationalement, donc pour permettre justement de valoriser mutuellement les travaux des uns et des autres, de pouvoir reconnaître la paternité des idées et de poursuivre la construction des savoirs et l'évolution des pensées. Donc c'est une exception au droit d'auteur, mais qui de toute façon impose que on cite correctement l'œuvre et l'auteur à laquelle on fait un emprunt. Alors, forcément, il y a une subjectivité dans l'appréciation du court et du long, mais c'est un peu laissé à l'arbitrage personnel, mais il y a en gros quand même... selon Oui, je pense que là, si j'ai parlé de juges, c'est qu'il y a dû y avoir des cas qui ont fait des jurisprudence. Donc, selon l'appréciation subjective du juge, ça peut aller jusqu'à 20% de l'œuvre, mais 20% c'est déjà beaucoup. En général, on dit quelques lignes. Il faut quand même considérer que si vous empruntez à un poème 3 strophes sur 5, ou même une strophe sur 3, enfin... C'est sûr que la taille du texte d'origine doit être prise en compte pour... il y a une proportionnalité à respecter. Donc, un haïku... Ah, c'est ennuyeux, ça. S'il est dans un long recueil de haïku... Donc les principes, c'est qu'il faut que quand même cette citation ne nuise pas à l'auteur. Hein. Vous n'allez pas dire comme l'écrit cet exécrable Dupont, etc. Vous devez quand même respecter l'auteur, ne pas lui nuire. Et il faut que la finalité de votre citation soit critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d'information. Bon, c'est typiquement le contexte dans lequel on se trouve dans nos métiers. Alors, Internet modifie un petit peu la donne et nécessite donc qu'on voit comment s'applique ce droit des œuvres sur Internet. Alors, même si un document est disponible physiquement, soit directement en ligne en HTML, soit sous une forme téléchargeable, c'est pas pour autant que vous avez le droit de le reproduire davantage qu'une œuvre qui serait sur papier. Hein. Sauf, on verra plus tard les différents types de licences, mais dans le droit général, c'est pas parce qu'un document est disponible sur Internet que vous pouvez davantage le reproduire. Gratuit ne veut donc pas dire libre, hein, libre de droit. Une chose absolument à proscrire, nous on voit ça régulièrement, enfin plein de bonnes intentions, hein, c'est pas du tout du piratage, mais on voit des gens qui récupèrent les versions PDF de nos dossiers et puis qui installent ce PDF sur leur serveur et qui rediffusent ce PDF tout en disant c'est la VST, etc., mais qui rediffusent notre dossier depuis leur serveur. Et ça peut être des fois, enfin ça arrive fréquemment que ce soit des centres de documentation. Ça, c'est une pratique qui n'est absolument pas conforme. Oui ? Oui, mais ça c'est pas vraiment des œuvres intellectuelles, c'est un petit peu des outils. Et puis, on va le voir un tout petit peu plus loin, il y a des types de licences qui, par contre, autorisent la reproduction, même l'amélioration, etc. Mais là, je reste dans le tant qu'on est dans le régime du copyright standard, a priori, on n'a pas le droit de faire ça.
Si je peux amener une précision, parce que c'est vrai qu'on a de plus en plus de sites, que ce soit sur YouTube par exemple, mais des slideshares où on peut mettre des PDF, ça peut être des œuvres complètes, une thèse que quelqu'un met sur ce site-là et qu'on peut du coup, avec un petit morceau de code, mettre sur n'importe quel site et ça va s'afficher sur le site. Là, il faut savoir, on en parlait un peu quand je suis intervenu sur l'accès libre, il y a un vide juridique parce que c'est pas nous qui mettons à disposition l'ouvrage, ça peut être un livre complet, c'est qu'une fenêtre, mais l'ouvrage est ailleurs. Ceci dit, on met à disposition quelque chose pour lequel on n'est pas certain, bien souvent, que la personne qui l'a mise en ligne sur un site dédié ait elle-même les droits de l'avoir mis en ligne ici. Donc c'est assez complexe et il y a un vide juridique parce que c'est pas de la citation, c'est pas de la mise à disposition, ça correspond à aucun cas de figure.
Tout de même, on a ces licences dont vous avez sûrement entendu parler, qui sont les Creative Commons, qui est un type de licence plus ouvert que les licences de copyright du régime commun du code de la propriété. Ça, c'est un type de licence qui a été inventé en quelque sorte par tout un tas de personnes qui développaient des logiciels libres, justement, qui voulaient pouvoir favoriser le travail collaboratif et ne pas rechercher nécessairement un intérêt commercial de protection des œuvres de l'esprit, mais au contraire pouvoir collaborer collectivement par le biais d'Internet. Alors, donc, on a les logiciels libres qui sont sous ce régime de Creative Commons, mais aussi tout à fait d'autres types de productions qui peuvent être des textes. Vous connaissez évidemment Wikipédia. Wikipédia, tous les contenus sont sont sous le régime Creative Commons, parce que c'est une œuvre collective qui n'est pas revendiquée par un auteur nommé, en plus. Donc, on trouve des ressources libres de façon croissante sur l'Internet. Alors, il y a plusieurs types, plusieurs niveaux de licences Creative Commons qui sont plus ou moins ouvertes. En gros, les critères qui interviennent, c'est est-ce qu'on autorise ou non une utilisation commerciale ? Est-ce qu'on a le droit ou non, en récupérant l'œuvre, de la modifier ? Et puis, le dernier critère, si on a le droit de modifier et qu'on procède effectivement à des modifications, est-ce qu'on est obligé ou non de partager les œuvres qu'on va produire avec l'œuvre initiale sous la même condition de Creative Commons. Ça, en particulier pour les logiciels, si vous faites des améliorations sur un logiciel libre, vous allez mettre à disposition, enfin, ce niveau de licence permet d'inciter les gens qui développent des améliorations sur un logiciel à les proposer eux aussi à la communauté. C'est des contenus qui sont des productions de même type que celles qu'on a sous le régime du copyright, hein, que ce soit du texte, de la vidéo, du son, du logiciel, donc des contenus pour lesquels l'auteur ou les auteurs ne souhaitent pas nécessairement placer leur œuvre sous un régime de protection aussi fort que le copyright. Donc, des œuvres produites dans un esprit communautaire d'ouverture. Tu voulais apporter un complément.
Oui. Les licences Creative Commons, donc, je les avais abordées mardi, mercredi, je ne sais plus. C'est un aménagement du copyright qui permet à l'auteur de décider du degré de liberté qu'il accorde à l'utilisation de ce qu'il met à disposition. Il peut choisir, donc il y a 6 licences différentes, c'est pour ça qu'on parle des licences, parce que on coche ce qu'on souhaite laisser comme degré de liberté. Est-ce que la personne qui récupère le fichier, quel qu'il soit, est-ce qu'il peut en faire un usage commercial ou pas ? Est-ce qu'il peut le modifier ou pas ? Et est-ce que s'il le modifie, on lui impose de la remettre sous la même licence à disposition des internautes ou pas ? Voilà, donc c'est ça, en fonction de ce qu'on veut. Je prends l'exemple d'une thèse, la personne qui a rédigé la thèse, elle n'a peut-être pas envie que sa thèse soit modifiée. Donc elle va mettre la clause interdiction de modifier. Par contre, elle peut être diffusée. Si quelqu'un fait quelque chose qui ne veut pas qu'il y en ait une utilisation commerciale, mais le sens de commercial est différent en français et en anglais, ce qui prête souvent à pas mal de confusion, il va dire oui, ce n'est plus la peine de demander l'autorisation de diffuser parce qu'on est averti dès le départ de l'utilisation qu'on peut en avoir. Un usage commercial, si je mets un PDF sur mon site et que sur mon site il y a de la publicité, c'est considéré comme un usage commercial. Donc est-ce qu'on interdit l'affichage de telles ressources sur un site sous prétexte qu'il y a de la publicité ou pas? Alors que c'est vrai qu'en français, la plupart des Français n'aiment pas, refusent l'usage commercial, mais sans penser que ça va bloquer la diffusion, parce que si on participe à un colloque, l'entrée est payante, même 5 euros, ça tombe sous la dénomination usage commercial et on ne pourra pas diffuser par ce biais-là. Si on récupère, le cas de Wikipédia est très bon parce qu'ils ont abandonné cet aspect, cette clause non commerciale, parce qu'il y a des projets qui vivent de mettre l'encyclopédie sur un CD-ROM pour le distribuer dans des pays, par exemple, où l'accès à Internet n'est pas généralisé, mais pour avoir, le fait de vendre le CD-ROM 1 euro, c'est un usage commercial. Quand on crée un document, on peut l'indiquer avec un logo qu'on récupère sur le site des Creative Commons, on peut mettre un lien ou on peut dans les propriétés l'afficher. Sur un blog, ça peut être affiché à droite. Ici, il y a un logo, ça c'est le blog de la VST. Donc là, nous, Ce qu'on demande, c'est que si quelqu'un reprend nos articles, il faut citer la source. Ça, c'est obligatoire pour toutes les licences Creative Commons. By, hein, c'est citer la source. Et NC, non commercial, c'est-à-dire qu'on ne souhaite pas qu'il y ait un usage commercial qui est fait, avec les barrières que ça suppose derrière aussi. Hein. On peut avoir un blog comme ça, puis si nous on prend un article sur Wikipédia et qu'on reproduit in extenso, ce qui arrive pas, là, on sera obligé de marquer que c'est pas la même licence et d'indiquer la licence de Wikipédia pour cet article-là. Voilà.
Bon, mais ce qu'il faut quand même retenir, qui est important, c'est que même en citant une ressource qui est sous le régime Creative Commons, il faut citer votre source, l'auteur, le titre, etc. Hein, c'est pas du tout un moyen de s'approprier le discours de quelqu'un d'autre. Alors, bon, voilà, on va attaquer un petit peu les questions relatives au référencement bibliographique. Alors, il y a pas mal de diapos, mais on passera vite sur certaines parce qu'il y a juste certains aspects qu'il est important. Oh, bah, là, je passe vraiment très vite. Alors, pour pouvoir référencer un document, il y a un certain nombre d'indications qui sont indispensables. De quoi on a besoin ? Donc, de citer le document source auquel se réfère, par exemple, une citation ou une idée qu'on emprunte, d'identifier ce document sans ambiguïté et de permettre au lecteur de s'y reporter, le cas échéant, de retrouver la citation exacte. Hein, on pourra mettre le numéro de la page dans lequel on a trouvé tel ou tel extrait. Le principe étant de rendre à chacun ce qui lui est dû, de donner, d'écrire son raisonnement avec rigueur et transparence en retraçant le raisonnement par les différentes étapes où on est passé, donc si on a emprunté des concepts à un tel ou un tel, voilà. Donc, pour ce référencement, il y a beaucoup de normes. Il ne faut pas confondre les normes utilisées dans les bibliothèques et celles dont on a besoin en tant qu'auteur quand on veut citer un document. Donc là, je me réfère à la BNF qui dit que pour un public plus large que les professionnels et bibliothèques, que les professionnels des bibliothèques et de la documentation, les normes relatives à la citation de publications imprimées et électroniques permettent de fournir aux étudiants, auteurs et éditeurs un guide précieux pour réaliser des bibliographies précises et exploitables par leurs lecteurs. Donc, sont ici indiquées une norme française, Z44005, ça fait un peu barbare, et une norme internationale, ISO, qui se décline en la norme pour l'imprimé, la norme pour l'électronique. Ces normes, c'est évidemment aux éditeurs en premier lieu qu'il appartient de les mettre en œuvre. C'est ce qu'on a fait à l'INRP, c'est ce que font un certain nombre d'éditeurs, mais il est vrai que d'une revue à l'autre, d'un éditeur à l'autre, il y a toujours des variations, ce qui fait qu'il n'y a pas un modèle absolument unifié. Mais si on doit tendre vers quelque chose, c'est quand même vers cette norme qu'il convient de tendre. Alors, dans la pratique, il y a quand même des petits aménagements de la norme qui sont souvent opérés. Nous, à l'INRP, on s'inscrit dans cette petite variante de la norme ISO. Alors, je ne vais pas vous la décrire en détail, mais en tout cas, vous trouverez sur le dans l'espace formation, un petit document assez complet qui présente l'application de cette norme. Ça s'appelle composition et utilisation d'une bibliographie, aussi bien pour la fabrication des références que pour les relations entre le texte et la référence, c'est-à-dire quand vous citez à l'intérieur du texte, vous allez mettre Dupont, 2009, donc le lien, comment assurer le lien entre le texte et le renvoi en bibliographie finale. Alors, une référence varie selon le type du document, selon son support, mais on retrouve de toute façon un certain nombre d'informations qui sont incontournables, telles que l'auteur, le titre, l'édition. Évidemment, une fois qu'on choisit un modèle de présentation, il faut que toutes les références soient dans le même modèle, ce qui n'est pas toujours le cas quand on voit des manuscrits. Souvent, on a des présentations différentes. D'où l'intérêt, là aussi, des outils qu'on va vous présenter un peu plus tard, qui harmonisent la présentation de toute votre sélection de références bibliographiques. Un petit peu de vocabulaire, hein. Donc sur les différents types de documents, à noter surtout des mots un peu traîtres, des traductions, enfin des mots anglais qui peuvent prêter à confusion. Thesis, c'est un mémoire d'étudiant, c'est pas une thèse. En revanche, une thèse, c'est dissertation ou doctoral thesis. Hein, ça c'est le petit piège à noter. Autre petit piège dans l'anglais, un éditeur, c'est pas un éditeur, c'est un directeur de publication, donc c'est celui qui porte la responsabilité scientifique. L'éditeur, au sens où on l'entend en France, c'est le publisher. Dites-moi si je vous dis des choses absolument connues, non, bon. Petite chose aussi à noter, un numéro de revue, c'est issue, hein, c'est... Oui, la revue, souvent, c'est un journal, hein. Parfois, on trouve le terme review, mais... Donc, oui, le issue, c'est le numéro de la revue. Bon, les autres termes ne prêtent pas confusion. Alors, bon, pour l'auteur... Là, je vous ai présenté, mais je ne vais pas le développer, hein, notre modèle en vigueur. Mais bon, il n'y a pas de difficulté particulière sur l'auteur. Hein. Simplement, peut-être retenir que le last name, c'est le nom propre. First name, le prénom, si vous avez affaire à des notices en anglais. Quand vous avez des auteurs multiples, bon, il faut... citer les auteurs dans l'ordre des noms qui apparaissent sur le document, hein. C'est pas toujours l'ordre alphabétique. On peut les auteurs ont pu vouloir mettre en premier le nom d'une personne qui a plus d'importance à leurs yeux que ses collègues. Donc il faut respecter cet ordre. Généralement, jusqu'à trois auteurs, on met les trois noms, et puis au-delà, on va mettre la mention et al. Vous avez vu ça très souvent, je suppose. Alors, quand l'auteur n'est pas une personne ou plusieurs personnes physiques, on peut avoir une personne morale qui est auteur d'un document. Hein, ça arrive souvent avec les organismes internationaux ou les associations, etc. Donc, il faut indiquer cet auteur de cette façon-là. Dans la langue du pays Excusez-moi, je vais trop vite. Hein, donc, quand on a une publication dans une langue étrangère, on respecte le nom tel que de l'organisme tel qu'il est indiqué sur le document. Quand il n'y a pas d'auteur, on met rien. Titre et sous-titre, usuellement on sépare titre et sous-titre par deux points. Bon. Alors, la chose quand même à retenir, parce que ça c'est vraiment important pour construire des références bibliographiques, de se demander est-ce que le document que je veux référencer est un tout ou est-ce que c'est une partie d'un tout ? Un tout, c'est une revue, c'est un livre, c'est un rapport, c'est une thèse, ou ça peut être même un texte personnel que je vais écrire sur mon site personnel. Une partie d'un tout, c'est un chapitre de livre, en général pour c'est un cas qui se présente souvent avec les ouvrages collectifs, un article de revue, une intervention dans un colloque. Qu'est-ce que ça change ? Quand vous voyez un document comme un tout, en général il est mis en italique. Un élément d'un tout, il est placé entre guillemets et en caractères normaux. Alors on reproduit le titre évidemment dans la langue d'écriture. Quand la langue est vraiment une langue où on va avoir du mal à la lecture du titre original à se faire une idée du contenu, on va mettre la traduction entre crochets, voire pour un texte en caractère grec par exemple, on va mettre intégralement sa traduction entre crochets. Alors, l'éditeur, la zone éditeur, il faut connaître le lieu de l'édition. Et typiquement, on met le lieu, deux points, le nom de l'éditeur. Alors, à ne pas confondre lieu d'édition, donc qui est le siège de l'éditeur. Et le lieu d'impression qui est complètement sans intérêt. Hein, c'est la fabrication, c'est pas du tout notre problème quand on référence un document. Alors quand on a plusieurs éditeurs, on va placer côte à côte la ville du premier éditeur, le nom du premier éditeur, point virgule, la ville du deuxième, etc. L'année d'édition, c'est pas compliqué, mais il faut prendre l'année qui se trouve à côté du sigle copyright en général. Et puis pour les revues, c'est l'année de numérotation de la revue. Donc là, je vais passer assez vite, peut-être juste rappeler si besoin est, mais dites-moi si ça, c'est vraiment très redondant pour vous, qu'est-ce qu'on appelle une monographie ? Hein, donc c'est un ouvrage qui forme un tout en un seul ou plusieurs volumes qui paraît en une seule fois et selon un plan selon un plan fixé à l'avance. Donc on a quatre volumes, on sait qu'on va faire une encyclopédie en quatre volumes, ça va être. Ce qui est pertinent en termes de référencement bibliographique, c'est de savoir si cette monographie est écrite par un seul auteur ou par une même communauté d'auteurs. Enfin, quand on ne peut pas distinguer, souvent on a des livres qui sont signés par deux personnes, mais on ne peut pas distinguer quel chapitre a été écrit par l'un, quel chapitre écrit par l'autre. Là, c'est vraiment une monographie au sens strict. On appelle, au sens d'une seule plume. Et dans le domaine scientifique, par contre, ce qu'on voit très souvent, c'est des ouvrages collectifs, donc avec un ou plusieurs directeurs de publication, et puis une communauté d'auteurs qui prennent en charge chacun une partie, en général un chapitre. Alors, Lorsque l'ouvrage est écrit par un seul auteur, c'est vraiment le cas très simple. Bon, nom de l'auteur, année, titre de l'ouvrage, éditeur. Pour un ouvrage collectif, bon, c'est le même principe, à part que, comme on n'a pas, enfin, on ne va pas mettre la liste de tous les auteurs, les gens qui sont pertinents. les gens qu'il est pertinent d'indiquer ici, ce sont les responsables éditoriaux. Alors, sur l'ouvrage lui-même, on va trouver les noms de ces personnes sous la forme « sous la direction de un tel et un tel »,« coordonné par », dans des ouvrages anglais « edited by ». Mais il y a une seule façon de représenter ces différentes appellations qui va être « dire ». Hein. On va pas écrire « cord »,« edit »,« ed », etc., tout ça. C'est « dire l'appellation normalisée ». Référencer une contribution à une monographie, cette fois-là, on s'intéresse à une partie de tout, un chapitre, par exemple, d'un ouvrage collectif. Ici, on va mettre le nom de l'auteur de la partie en question, et puis, donc, entre guillemets, le titre de sa partie, et « in », là, on va donner les références de l'auteur ou des, enfin, pardon, du ou des directeurs de la publication, le titre de l'ouvrage complet, et puis les références de l'éditeur et la pagination de cette partie. À noter, oui, c'est pas conforme de mettre deux P, on n'en met qu'un pour les paginations. Pour un périodique, ben, finalement, c'est assez similaire. Un périodique, comme une monographie, c'est un tout. D'ailleurs, on cite plus souvent des articles que des revues en tant que telles. Hein. L'intérêt que peut avoir la citation d'une revue, en général, c'est quand c'est une revue thématique et qu'on trouve que vraiment, globalement, tous les articles ont un intérêt. Donc, dans ce cas-là, bien particulier, on met le titre de la revue, l'année de publication, le numéro de la revue et puis le titre du numéro avec la période année devrait pas être là, c'est une faute. Alors par rapport dans les revues américaines ou anglophones, on voit souvent un numéro ici et un autre entre parenthèses. En fait, ça correspond à un mode de numérotation qui se fait par volume, et à l'intérieur du volume on a plusieurs numéros, donc souvent c'est un volume par an. Donc ici on a le volume et puis entre parenthèses le numéro dans le volume. Donc la transcription, c'est de mettre volume tant, numéro tant. Alors un article de périodique, donc là on est à nouveau dans le cas d'un élément d'un tout. Donc le titre de l'auteur de l'article, l'auteur de l'article, le titre de l'article, et puis le titre de la revue en italique, là, donc c'est le tout qui est en italique à chaque fois, et la partie qui est entre guillemets. Hein. Donc le numéro de la revue, et puis la pagination de l'article lui-même. Non, mais ici, donc dans le cas où on cite la revue dans son intégralité, on procède comme ça. C'est-à-dire qu'on indique de quel volume il s'agit et de quel numéro. Et il se trouve que le numéro 3 a pour titre curriculaire réforme. Voilà. Mais le cas très général qu'on rencontre quand on cite un article, c'est celui-ci. S'il y avait un volume, on aurait intercalé le volume entre le titre de la revue et son numéro, et puis de toute façon, la pagination de l'article lui-même. Ça va ? Bon, les actes de colloque, c'est un petit peu le même principe qu'une monographie. On va distinguer, si les actes sont diffusés en librairie, commercialisés en librairie, ben finalement, on retombe dans le cas d'une monographie et on va traiter ça comme une monographie, oui. Ici, la date fait partie du titre. C'est le titre du document que j'ai reproduit intégralement. Ici, vous voyez, j'ai choisi ce cas précis parce que l'édition a été faite tardivement. Hein, en 2006, ou bien c'était une réédition, j'en sais rien, mais on parle d'un colloque de 2000. Donc là, finalement, on traite ces actes comme des monographies, comme des livres. En revanche, les actes sont sortis comme une littérature grise, on les traite à peu près pareil, mais il s'agit pas d'un livre. Donc, ce qu'on indique comme auteur ici, c'est l'organisateur. On a vu tout à l'heure que ici, l'organisateur, c'était deux personnes. Je suis pas allée dans le bon sens. Le plus souvent, on a une organisation qui est organisateur. Enfin, bon, là, un réseau, une association, etc. Il faut veiller à ne pas confondre l'organisateur et celui qui héberge la manifestation. Il peut très bien se dérouler à l'INRP une manifestation qui sera organisée par l'ENS ou bien... C'est l'organisateur qui doit être mis et non pas le lieu physique où se déroulait la manifestation, parce que ça peut être n'importe quelle salle louée à droite à gauche et ça n'a absolument aucun intérêt. Bon, je vais passer assez vite. Les contributions, c'est le même principe hein, que les contributions aux ouvrages. Sauf que si peut-être la petite chose à dire, c'est que si la contribution... Enfin, si des fois on trouve sur Internet un texte qui vous dit contribution à tel colloque, mais qui ne... dans l'entête du document, vous allez voir ça. Mais pour autant, le document n'est pas... Vous ne l'avez pas trouvé dans le cadre des actes eux-mêmes. C'est l'auteur qui l'a diffusé, soit sur une archive ouverte, etc., en précisant que c'est le texte de sa communication. Mais vous ne pouvez pas invoquer l'organisateur de la manifestation si vous avez trouvé ce document quelque part, parce que à la limite n'importe qui peut dire c'est ma contribution à tel colloque, mais qui le prouve, hein? Donc dans ce cas-là, il faut traiter ce document comme une contribution personnelle. On peut pas dire c'est la communication d'un tel à tel colloque. Vous ne pouvez dire ça que si vous avez trouvé cette communication sur le site des actes du colloque ou dans le document physique des actes du colloque.
Et lorsque les actes sont publiés sous forme de CD-ROM,
vous pouvez quoi ? Même chose, à part que... Enfin bon, j'ai pas... Bon, quand c'est un CD-ROM, en fait, j'ai pas remis cette diapositive, mais un CD-ROM, on met entre crochets CD-ROM. Voilà. Alors, la littérature grise, elle pose... un peu plus de problèmes parce que déjà il n'y a pas de norme. La norme ne porte pas sur ces documents puisqu'ils sont un petit peu en marge des circuits de diffusion habituels. Donc on se débrouille avec les informations qu'on a en respectant un petit peu ces principes organisateurs que sont est-ce que c'est un élément ou est-ce que c'est un tout. Hein, bon, après on comprend un petit peu la mécanique. Ce qui donne du sens, maintenant, enfin, à un document, au référencement d'un document de littérature grise, qui autrefois, bah, il fallait vraiment l'avoir physiquement, c'était pas toujours facile de se procurer. Ce qui lui donne de la valeur et de l'intérêt aujourd'hui, c'est de pouvoir y accéder sous une forme libre sur Internet. Alors bon, les rapports, je passe vite là, parce que vous retrouverez ça, enfin c'est un petit peu fastidieux, mais donc vous retrouverez ça si vous avez besoin de vous y reporter pour un document. Les thèses, même chose. Voilà, ce que je voulais quand même voir, c'est que, avec vous, c'est que quand vous présentez une bibliographie, c'est quand même une valeur ajoutée que vous pouvez donner pour votre lecteur, que de lui dire, bah, ce document, en plus, il est disponible en ligne. Donc, c'est intéressant de pouvoir, quand un article est disponible en ligne, de pouvoir rajouter à la fin de la référence, disponible en ligne à telle adresse, et vous ajouterez, entre parenthèses, consulter le temps. Donc, de préférence, bon là je l'ai pas fait, mais quand même si vos références sont, si vous avez votre bibliographie toute prête sous la main et que vous publiez un article, bon c'est pas plus mal avant d'envoyer votre article à l'éditeur ou au responsable de la revue, d'aller vérifier si l'adresse en question marche toujours. Et puis, du coup, de dire consulter hier, enfin, donc, une date fraîche, hein, pour que, parce que si, là, en l'occurrence, j'ai pas du tout appliqué mon principe, je sais pas si cette adresse est encore bonne aujourd'hui. Et alors, on a le cas de documents qui sont uniquement disponibles en ligne. Alors là, il convient d'écrire en ligne, de mettre l'adresse internet et, même chose, de mettre la date. Alors, c'est le cas, par exemple, de nos articles de blog. Hein. Là, j'ai pris un exemple d'un article d'Annie. On va... c'est un document qui n'a pas d'autre matérialité que d'être en ligne. Alors... oui, bien sûr. Là, en l'occurrence, écran de veille en éducation. Et puis, dans l'adresse, on retrouve INRP, etc. Mais des fois, c'est vraiment compliqué. On ne sait pas très bien. Des sites de chercheurs où ils mettent un texte personnel, Donc, on est forcé de se débrouiller un petit peu là-dessus. Alors, une bibliographie, bon, il est préférable donc de mettre une bibliographie finale plutôt que des bibliographies. Enfin, bon, ça dépend. Hein, mais je sais pas si vous écrivez un texte de 20 pages, la bibliographie de la première partie, la bibliographie de la deuxième partie, c'est quand même plus facile pour le lecteur de mettre une bibliographie générale à la fin, avec bon les systèmes de référencement que je développe pas du tout ici, mais que vous retrouverez dans le document PDF. Alors, le classement par ordre alphabétique d'auteur, plutôt que un classement par type de document, hein, de savoir que c'est un rapport ou que c'est une thèse, etc. Bah, oui, cette information-là, on doit pouvoir la déduire en lisant la référence elle-même. On reconnaît si c'est un article de revue, si c'est un rapport, si c'est une monographie. Et puis, ça a peut-être un intérêt pour les documentalistes, mais ça n'en a pas pour le lecteur a priori. Donc, il vaut mieux classer les références par ordre alpha.
Excusez-moi, c'est un choix normé ou ça vous paraît un choix plus pertinent? C'est-à-dire, est-ce que c'est quelque chose qui, C'est un accord
Non, non, ça c'est mes recommandations. Hein, c'est... Mais bon, il peut y avoir des situations où il y a une bonne raison de faire un classement de ce type. Mais dans le cas d'un article scientifique ou d'une publication scientifique, a priori, il faut penser au lecteur. Qu'est-ce qui sera facile pour lui? Comment il va retrouver facilement les références? Et le classement par type de document n'est absolument pas facile pour le lecteur. Alors, en pratique, bon, il y a de plus en plus d'outils qui vous facilitent le travail de constitution d'une bibliographie. Alors, nous, à la VST, on utilise un logiciel, je ne sais pas si mes collègues vous l'ont présenté précédemment. C'est un outil de bibliographie collaboratif qui est donc en ligne, accessible à n'importe qui. Hein, n'importe qui peut aller chercher, je sais pas, toutes les références qu'on peut avoir sur... ah non, je vais pas faire ça parce que... sur l'Australie. Et là, bon, ben, on tombe, on n'en a pas énormément, mais on tombe sur une sélection de 10 références. Alors, tout le monde ne peut pas, dans l'état actuel de ce logiciel, il faut demander une autorisation pour avoir le droit de faire partie des gens qui ajoutent des références, mais en tout cas, n'importe qui peut venir les consulter. Alors, bon, là, on a une consultation en liste, et puis bon, ben là, il n'y a pas grand-chose dans le résumé, mais on a d'autres rubriques qui permettent de... Absolument, mais c'est un logiciel qui nécessite une installation sur un serveur, c'est pas un logiciel distant, comme d'autres plateformes qu'on verra un peu plus tard. De travail collaboratif ou pas d'ailleurs, mais enfin des plateformes de gestion de bibliographie. Là, c'est vraiment un logiciel libre qu'on a installé sur le serveur, pour lequel on fait des mises à jour régulièrement, etc. Et qui s'appelle Wikiindex. La façon dont on essaie de mettre un petit peu d'interactivité autour de ces notices Wikiindex, c'est que dans tous les dossiers qu'on produit, toutes les références qu'on donne à l'intérieur de nos dossiers, on va citer un auteur et puis on installe un lien sur chacune des références qui renvoie directement à la notice de ce document. Intérêt, c'est que quand le document est en ligne, tout de suite, on a ici son accès.
Est-ce que je peux utiliser Wikiindex à partir de ma plateforme, ou est-ce que la plateforme soit abonnée à Wikiindex?
C'est pas une histoire d'abonnement, c'est une histoire d'installation du logiciel sur le serveur. Non, pas pour consulter, mais pour pouvoir être créer pour vous ou pour une communauté d'utilisateurs un espace de bibliographie. Nous, on a fait ça pour la VST. On a un espace commun dans lequel on rentre des notices et voilà. Vous pourriez le mettre... Alors, nous, on l'a mis accessible sur Internet, mais il pourrait ne pas être accessible sur Internet, être simplement en réseau local. Bon, après, c'est en fonction des utilisations. Mais comme c'est un logiciel libre, vous pouvez le télécharger et l'installer.
Il n'est pas le seul dans sa catégorie, et on verra d'autres qui ont tous leurs avantages et leurs inconvénients.
Oui, là, je voulais vous montrer simplement le principe. Hein. Question ? Non, c'est un logiciel gratuit. Alors, Rémi vous fera une présentation plus détaillée d'autres outils, en particulier l'outil qu'on va vous proposer d'utiliser pour les TP. Mais encore une chose à savoir, c'est de connaître. Il existe différents formats d'échange. Vous connaissez le format RTF, hein? Tout le monde connaît le format RTF. Bon, c'est un format d'échange pour pouvoir communiquer entre différents logiciels de traitement de texte, principalement, mais pas seulement du traitement de texte. Mais enfin, c'est un format qui permet de communiquer, enfin de transférer à des utilisateurs qui n'utilisent pas les mêmes outils que vous un document, principalement texte. Bon, pour les notices de bibliographie, on a l'équivalent. On a des formats d'échange, dont le format BibTeX qui nous paraît être le format le plus intéressant, parce que c'est pas un format propriétaire, comme on dit. Bon, il y a d'autres, il y a des formats qui sont vraiment liés à un logiciel comme EndNote, mais BibTeX a l'intérêt d'être un format libre. Alors, l'intérêt, c'est que sur de nombreux sites, on voit où sont mentionnées des ressources, on a la possibilité d'exporter la notice au format BibTeX pour pouvoir l'importer dans l'outil de bibliographie qu'on utilise. Donc, par un principe de copier-coller, on va s'éviter de ressaisir tout un tas d'informations. Alors, c'est une... ces notices BibTeX, elles sont structurées avec des champs. Alors, elles sont plus ou moins complètes selon les sites où on les récupère, mais c'est toujours on peut dire, c'est toujours ça de pris, ça de moins à saisir soi-même, ça de moins dans lequel on risque de faire des fautes de frappe aussi, hein, parce que c'est pas négligeable ce problème-là. Donc, des notices au format BibTeX, il y a tout un tas de portails, de ressources qui permettent de les obtenir. Je vais vous montrer, par exemple, avec Google Scholar, comment on peut récupérer des notices au format BibTeX. Alors là, je vais taper, par exemple, le nom d'un auteur au hasard. Alors, là, je vois que on a cette option importée dans BibTeX qui est disponible. Si vous ne la voyez pas sur votre écran de chez vous, c'est qu'il y a une petite option à cocher dans les préférences. Voilà. Il faut que soit cochée cette option afficher les liens permettant d'importer des citations dans BibTeX, parce que sinon, ce qui est bon à savoir, c'est que Sudoc, j'ai vu que dans leur programme de développement, ils prévoient d'implanter une possibilité d'export au format BibTeX pour la fin 2009. Voilà, je vais revenir. Je reviens, je vais prendre une notice importée dans BibTeX. Alors qu'est-ce qu'on voit là? Ben, on voit un code finalement qui nous dit on reconnaît que c'est un book, Bourdieu, etc. Avec des zones, title, author, year, publisher. Bon. Donc ça, c'est des informations que je vais copier. Et puis, si je veux... Alors, il faut que je me logue quand même. Si je veux la récupérer, là, je vous montre dans Wikiindex, eh bien, je vais simplement coller ma petite notice BibTeX. Et puis, je vais avoir créé une référence. Alors, qui est pas forcément parfaite, qui est pas forcément très complète. Bon, nous, on a l'habitude de mettre le prénom développé... il n'y a pas la ville de l'éditeur, mais enfin, il y a déjà une base qui est là. Enfin, non, pas là, parce que là, je suis dans Google Scholar. Mais ici, voilà. Si je recommence l'opération, je pourrais tout à fait
c'est là que vous faites la correction, vous la saisissez.
Écrire Pierre, de mettre Paris, tout à fait. Donc ça, on peut le faire à ce stade-là. Rajouter des champs, c'est peut-être un peu plus embêtant, et finalement, c'est aussi bien de le faire par le formulaire. Mais c'est bon. L'optique, c'est toujours ça de prix. Donc je vais pas recommencer une deuxième fois. Hein. Bon, ça, on l'a fait. Oui, je voudrais juste vous montrer que, par exemple, sur ALSHS, on peut avoir des notices qui sont plus... des notices BibTeX qui sont plus importantes, où on récupère même le résumé. Bon, je prends n'importe quoi, récupérer au format BibTeX. Alors, je vais copier tout un gros, une grosse notice, et puis, bon, là, si je la colle, on voit qu'on a quand même tout le résumé, etc., qui est présent. Alors, il va falloir, bon, il se peut qu'il y ait des champs présents dans la notice qui ne sont pas présents dans le modèle de l'outil, mais bon, dans ce cas-là, c'est des champs qu'on va supprimer. Là, par exemple, il va me dire, tiens, il y a des champs qu'il reconnaît pas, qui font partie de la notice et pour lesquels il trouve pas d'équivalent dans notre logiciel, donc on les supprime. Alors, dernière chose que je voudrais vous montrer, c'est, est-ce que vous avez déjà entendu parler des DOI ? Tout le monde ou... Bon, alors les DOI, c'est des identifiants, ça s'appelle Digital Object Identifier, des identifiants qui ont l'avantage d'être pérennes pour les documents qu'on trouve en ligne sur Internet. Enfin, excusez-moi, c'est pas l'identifiant qui est pérenne. Enfin, si, bien sûr, l'identifiant est pérenne, mais il donne accès à une adresse pérenne sur Internet, une localisation pérenne du document. Parce que, vous savez, des fois, les éditeurs changent leur URL, et puis, ben, du coup, toutes les adresses qu'on avait deviennent infructueuses. Donc, pour éviter ça, ce système de DOI se généralise maintenant à la plupart des revues. Donc, chaque article est doté d'un numéro unique. Alors, par exemple, bon bah, je vais vous montrer comment on va trouver ce numéro sur une revue. Là, je vais sur le site des abonnements de la bibliothèque. Je vais chercher une revue... L'Oxford Review of Education. Et puis, bah le premier article qui me tombe sous la main, sa notice avec ce champ DOI. Donc c'est un numéro que on peut enregistrer dans l'outil de gestion de bibliographie et puis qui permet aussi d'aller retrouver la version, enfin la localisation de ce document sur doi.org. Hein, vous tapez, enfin vous copiez le numéro DOI de l'article et à partir de ce site, on retrouve la localisation du point d'accès à l'article. Il y a une façon de taper DOI et puis de mettre le numéro, mais je m'excuse, j'ai oublié la syntaxe. Sinon, on passe par ce site doi.org, parce que ça, c'est facile à retenir, et on donne le numéro et on accède directement. Voilà, pour revenir, bah c'est une fondation internationale qui a mis ça au point. Bon, ça doit être un accord. J'avoue que je suis pas allée creuser trop la question. C'est bon, un partenariat, je pense, avec pas mal d'éditeurs. Enfin, c'est une espèce de norme maintenant, hein, le DOI. Alors, je sais pas si les éditeurs contribuent financièrement. Franchement, je me suis occupée que de l'aspect pratique. Alors dernière chose, bon, une fois qu'on a constitué une bibliographie, l'intérêt de des outils, c'est de pouvoir exporter sa bibliographie pour l'amener dans le texte de votre article. Alors bon, sur les aspects pratiques, on verra ça tout à l'heure. Simplement, ce qu'il faut savoir, c'est que il y a deux paramètres pour cet export, le style de présentation, hein, et puis le format. Alors le style, là on retombe sur les questions qu'on a vues précédemment, à savoir, il y a une multiplicité, mais vraiment invraisemblable, de styles qui sont pour la plupart, qui émanent d'institutions américaines. Ça peut être chaque revue qui définit un petit peu son style, et quand on voit les styles Harvard, etc., finalement c'est des styles qui sont liés à l'origine à une revue qui dit, bon, il faut présenter les choses dans tel ordre, mettre la virgule ici, etc. Malheureusement, la norme Z44 ISO 690 est rarement implantée dans tous ces outils qui sont plutôt américains. Alors, bon, pardon ? Oui, mais c'est surtout en Europe qu'on pratique comme ça. Bon, j'ai pas non plus exploré tous les outils pour voir si... Moi, j'ai bien l'intention, quand j'aurai 5 minutes, de faire un style pour Zotero, mais j'ai pas encore pris le temps de le faire, qui, une fois que je l'aurai fait, sera mis à la disposition de la communauté. Mais on a fait ça dans Wikiindex, on s'est créé... on a paramétré notre style pour que tous les exports puissent être faits selon le modèle qui nous convient. Donc voilà, le résultat, quand on fait un export, après on a toutes les références qui sont dans une même cohérence de présentation. Voilà.